Bon, on a une demi-heure à peu près d'intervention pour poser une question très brève. Et la réponse devrait être très brève. Soit une intervention, évidemment, je pense que encore plus brève. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et ça fait toujours que il n'y a que quelques-uns qui parlent. Il y a le 1, 2, 3, 4.
Oui, bien sûr, mais dans une phase difficile, il faudrait renforcer les militants anti-nucléaires, etc. Mais depuis le début, moi, depuis que j'ai été à FNE, je me suis dit qu'au-delà des militants anti-nucléaires, il fallait que l'ensemble des environnementalistes, qui ne sont pas tous anti-nucléaires, loin de là, commencent à l'être. Pas à militer fortement, mais au moins à dire, d'accord, on est contre. On fait autre chose, je m'occupe des oiseaux, je m'occupe de l'eau, je m'occupe des forêts, donc tous les jours je ne m'occupe pas du nucléaire, mais quand on parle du nucléaire, je sais que je suis contre. Au moins arrivé à cette position-là, quand je suis arrivé en 2010 à FNE, j'avais bien la moitié des fédés qui étaient plus opposés aux éoliennes qu'au nucléaire. Donc j'ai commencé à ramer, à remettre tout le monde
c'est
autour de la table, enfin, etc., jusqu'à ce qu'en gros, globalement,
depuis que Greta Thunberg est partie pour le nucléaire, moi je vois les gens tomber les uns après les autres, surtout chez les jeunes.
Il y a un bon niveau juridique à FNE qui sert de temps en temps à participer au QPC, à d'autres trucs comme ça. Voilà, donc ça me paraît très important qu'on garde ça en tête, qu'il faut qu'on attaque l'ensemble du mouvement environnementaliste qui ne se fait pas du nucléaire, mais qu'au moins, quand on lui parle de ça, qu'il sache qu'il a compris.
La géo-ingénierie maintenant.
Tu as tout à fait raison.
Sur la radiation management.
Comment vous allez faire, madame, mesdames les journalistes, pour que l'ensemble...
Ça va être toujours responsable.
Bah oui.
Non, mais moi, c'est pas en réponse directe à ce que dit Maryse Arditi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu pendant tout un moment, moi je pense que c'est un peu un oubli de la question nucléaire dans les médias, et que là, enfin... Voilà, moi je suis quand même frappée, deux mots, mais c'est un peu décalé par rapport à ce que tu disais, mais je suis quand même frappée par le fait que de tous les articles qu'on a dans les médias français depuis le fameux discours de Belfort d'Emmanuel Macron annonçant la relance du nucléaire, on a quand même peu d'enquêtes critiques. Ça, c'est sûr. On a un discours dominant très écrasant, et que, écrasant, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, très homogène, quoi. Et donc, là, c'est sûr que je suis d'accord, je le prends pour moi, c'est une interpellation du journalisme français par rapport à ça.
Ouais. Si je peux te dire juste une chose, parce que ça m'inquiète beaucoup, c'est que dans les jeunes activistes du climat, parce qu'ils sont très inquiets, ils sont prêts, et c'est vrai. Des mouvements comme XR ou comme Greta dont on vient de parler, j'ai vu beaucoup de jeunes dire maintenant il nous faut des solutions technologiques tout de suite parce qu'on a trop peur. Et c'est vrai qu'il faut quand même resituer cette discussion sur le nucléaire, mais maintenant ça vient aussi sur la géo-ingénierie et notamment la modification des radiations solaires, parce que voilà, vous n'avez rien fait, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est notre génération. Je crois qu'il faut qu'on arrive à intégrer ça dans le débat sur les choix de technologie. Et je pense qu'on n'y répond pas là pour l'instant.
Merci Bernard. Maxime Aîné, député de Finipès en charge des questions d'énergie, actuellement travaille sur le projet de loi de fusion. Moi, j'appelle ça de la dissolution de l'IRSN dans l'ASN. Voilà, deux suggestions. Merci de me donner la parole, Bernard. La première, c'est à mettre en discussion dans le droit fil de ce que vous venez de dire. Moi, je pense que si ce ne serait pas utile de faire une jonction avec les soulèvements de la Terre, on a dit que ce qu'avait le regain des luttes écolo, c'était Notre-Dame-des-Landes qui avait fait, parmi ses petits, il y avait la lutte à Bure, mais les soulèvements de la Terre, c'est aussi ça. Et il y a la question de la Terre, évidemment, parce qu'en cas d'accident, forcément, c'est des territoires entiers qui sont condamnés. Il y a la question de l'eau, je ne vous fais pas l'article, je pense que tout le monde sait ici ce qu'il faut penser de la question de l'eau et du nucléaire. Et puis, il y a la question de le nucléaire et son monde, les soulèvements de la Terre portent aussi cette lutte-là. Alors après, moi, j'en ai discuté un peu avec eux. Ce qu'ils disent, c'est que, justement, ils aiment bien situer leur lutte et occuper des endroits. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de chantier de nouveaux réacteurs, c'est compliqué. Mais je me dis que dans les années à venir, ça
va se
passer. La deuxième suggestion, c'est sur le... Bah oui, malheureusement. La deuxième suggestion, c'est sur le récit. Moi, je me demande si notamment sur la base de l'enquête InWorks là, qui a été menée dans, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France sur 310 000 salariés du nucléaire et sans compter les sous-traitants, où il y a une corrélation qui a été établie par des chercheurs sur l'exposition aux faibles doses et le développement des cancers solides. Ouais. S'il n'y a pas un truc à jouer de l'ordre du « ils nous refont la même chose que l'industrie du tabac et des fossiles », c'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens savent qu'ils nous pourrissent la vie, ouais, ça fait 50 ans qu'ils le savent, et dans 50 ans, on finira par le savoir. Ouais. Donc, voilà, il y a peut-être un...
Merci. Oui. Un vous avez de l'instant pour le prêtre. Pour répondre, j'étais aux interludes des soulevements de la Terre qui a eu à Dijon. Donc effectivement, on a discuté leur problème majoritaire, c'est le problème occupationnel, des autoroutes, des grandes bassines. Et quand on a parlé énergie, ils n'ont pas dit qu'ils attendraient le beau. Ils sont effectivement dans la problématique, effectivement, qui est un peu décevante, de se dire, comme ça a été dit, là, dans l'urgence, le nucléaire, c'est pas le top, mais peut-être qu'on n'a pas le choix. Donc là, même Jean Covici a diffusé sur des gens qui sont exceptionnellement militants, qui ont pas fait des actions, mais qui sont, à l'heure actuelle, aussi en réflexion par rapport au nucléaire, c'est-à-dire pas obligatoirement, peut-être de s'y opposer, vu l'urgence climatique, c'est là où la force de la vie qui a réussi à même intégrer ces gens, les gens qui sont en plus assez radicaux.
Ouais, je veux bien apporter un petit complément, effectivement, sur la déception qu'on a par rapport à des mouvements de jeunes, souvent qui voilà, ne prennent pas position sur le nucléaire, ils disent une solution. La difficulté, c'est que très souvent, on se rend compte que chez eux, c'est clivé. Et chez eux, c'est clivé. Et donc, pour éviter le clivage, ils ne prennent pas position. Après, il me semble qu'il y a quand même des biais à trouver par rapport au discours Jean Covici, justement en agissant sur ce qui fait que ces personnes se mobilisent. C'est-à-dire que là, il y a une critique du discours de Jean Covici qui émerge, non pas essayer de le chercher sur des choses techniques et on perd tout le monde en route, mais aussi de dire, mais quelle vision du monde, quelle vision de la société, de la démocratie, même des rapports hommes-femmes, enfin, de toutes ces choses-là, quelle vision de la nature il y a dans le discours de Jean Covici, en fait. Et est-ce que vous voulez vraiment adhérer à ça, cette vision qui est très techniciste, très ingénieure, très... utilitariste, et je pense que là c'est peut-être une piste en fait pour parler à ces milieux-là.
Je trouve ça hyper, je peux dire, faire un mini complément à ce que dit Charlotte.
Mini.
Non, mais c'est la question des syndicats. C'est la question des syndicats travailleurs, et c'est ce que dit Maxime Lenné à l'instant qui m'y fait penser. Tout ce que tu avais, toi, ce sillon que tu avais creusé, Bernard, avec la CFDT de l'époque, qui s'est quand même en très grande partie perdue, pour plein de raisons. Là, on a pas le temps, mais c'est sûr que critiquer un système productif sans avoir avec soi les syndicats qui représentent les travailleurs de cette industrie, c'est hyper compliqué. Et que là-dessus, quand même, moi, je vois à un tout petit niveau dans les articles qu'on essaye de faire, malgré tout, les énormes... malgré tout leur absence de volonté de critiquer le nucléaire comme système, malgré tout, en discutant avec eux, il y a toujours des histoires qui sortent. Je veux dire, sur la question de la santé des travailleurs, des conditions de travail, etc., etc. Donc là ça c'est un... Enfin, je veux dire, c'est aussi un des problèmes du nucléaire, c'est les conditions de travail imposées à ses salariés et sous-traitants. Et ça, c'est essentiel de travailler là-dessus, quoi.
Marc-Dominique GSUN. On voit bien que la relance du nucléaire en France pose une question sur le financement. On voit bien au niveau européen ce qui est en train de se mettre à travers l'Alliance, etc. Ma question était simple. Quelles opportunités, quels leviers voyez-vous? Parce que lutter au plan national, on sent bien que c'est difficile. Est-ce que le niveau européen n'est pas un axe sur lequel il faut essayer d'aller un peu plus fortement? Donc, quelles opportunités, quels leviers vous pouvez avoir?
Alors, d'une part, il y a une grande bataille européenne sur la classification du nucléaire dans les énergies renouvelables ou non, qui a quand même été relativement gagnée. C'est-à-dire, c'est pas reconnu comme on dit c'est orange, quoi. C'est pas vraiment vert. Il y a quand même beaucoup dans le financement européen, mais il y a ce problème maintenant de ce que vous disiez, Monique, c'est-à-dire où est-ce qu'on va les mettre les éoliennes, qui est quand même reste toujours un problème. parce que c'est la manière aussi de construire les projets, à mon sens. Donc, il y a quand même un très gros volet de financement européen, de positionnement de la Banque européenne d'investissement, par exemple, qui n'investit pas dans le nucléaire et qui investit que dans les renouvelables du point de vue de l'énergie, évidemment plus dans le fossile. Il y a des choses, des espèces de choses stables qui sont en train de se consolider. Et je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, me semble-t-il, que le gouvernement français est aussi désespéré pour faire passer la cause du nucléaire, parce que même si les Hongrois, enfin, c'est pas quand même si formidable d'avoir comme copain que les Hongrois, c'est pas génial, un peu les Suédois maintenant. Et donc, y a comme, on voit que l'argument renouvelable balaye quand même beaucoup de choses, et que ce qui était présenté, et qui est encore présenté par des gens comme Jean Covici, comme le nucléaire contre le renouvelable, qui est particulièrement idiot comme argumentation, alors qu'on a besoin de décarboner notre électricité et notre énergie, donc électrifier et décarboner d'ici 2030, donc c'est pas la réponse, le nucléaire de toute façon. Ça, je crois que ça se consolide. Et du coup, c'est vrai que le niveau européen, c'est une base sur laquelle c'est pas facile de revenir en arrière après. Et en tout cas, c'est pas les grandes portes ouvertes sur le nucléaire, pas du tout. Or, non, c'est déjà quelque chose. En revanche, c'est vrai que sur le solaire et l'éolien, et peut-être aussi sur la géothermie, il y a une base solide qui est le financement européen, les catégories d'énergie telles que la taxonomie le définit, et du coup, les investissements qui vont avec.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ? Pardon ?
Il y avait Harry, oui. Il y avait Harry.
Je ne suis pas transparent. Je peux dire un mot ?
Bien sûr.
Très court. Il me semble, c'est très présent dans le...
Tu es qui ?
Pardon ?
Je peux te présenter.
Harry Bernas, je suis physicien et je viens de prendre un petit bouquin que certains d'entre vous ont peut-être vu sur... à partir du discours de Macron, avec l'idée, le projet tel qu'il est présenté, il est absurde et infaisable. Il est absurde du point de vue des technologies qui sont proposées, parce que c'est revenir 70 ans en arrière et repartir sur des technologies, sur des concepts de réacteurs qui avaient été définis à l'époque, qui avaient été même tentés, et dire, bon, entre-temps, on a fait des PWR, on a donc des REP, si vous voulez, pour le système français, et on s'est trompé, alors on va revenir en arrière et on va repartir à faire des recherches, etc. Du point de vue de la recherche, je voudrais dire, ça choquera peut-être quelqu'un, je pense que c'est une bonne idée, parce que peut-être qu'un jour, si l'humanité existe encore dans une centaine d'années, on sera peut-être content d'avoir une source d'énergie utile pour certaines choses. C'est de la recherche à terme. Et c'est de la recherche qui avait été proposée sous la forme que je viens de dire par une commission qui était dirigée par Oppenheimer en 1948. On n'est pas en train de parler de hier matin. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'on a entendu plusieurs fois dans les interventions, et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire d'entendre ça aujourd'hui, on est en train de réaliser que, en fait, il faut renverser le paradigme. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, et je vous dis ça parce que j'ai participé à un séminaire hier soir avec 70 étudiants de l'Europe, et j'ai senti que ce que je vais dire était absolument dans leur tête, déjà, aujourd'hui, des gens qui ont 20 ans, hein, c'est... Le problème, il est quoi ? Une société a besoin d'énergie. Une société, elle développe le type d'énergie qui lui convient. Elle utilise le type de société qui lui convient. Et ce n'est pas l'énergie qui détermine la société, c'est la société qui détermine la manière dont elle utilise l'énergie. Si on pose la question sous cette forme-là, dans les conditions du changement climatique, avec les temps qui nous restent, on renverse complètement la problématique, et le problème n'est pas de défendre, excusez-moi, je dis ça pas du tout méchamment, une boutique anti-nucléaire, etc. C'est l'inverse, c'est d'ouvrir les portes et de se dire, on est en train de se battre pour les conditions du changement climatique, quels sont les moyens dont on dispose ? Le nucléaire n'en est pas. il ne marche pas. Et c'est infaisable, le projet Macron est totalement infaisable. On peut le montrer, j'essaie de montrer ça dans le bouquin. Il est infaisable, donc il ne résout pas le problème. On a 10 ans pour arriver à diminuer de moitié. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est certainement pas le nucléaire.
Merci. Est-ce qu'il y a des...
Bonjour à tous et tous, donc, je m'appelle Laure Barthélémy, je suis chargée de recherche sur les sorties nucléaires et sur l'incitation des installations nucléaires. Je n'ai pas spécialement de questions, par contre je voulais vraiment vous remercier. Ça fait tellement plaisir et tellement du bien d'avoir une tribune féminine
qui parle
de nucléaire et ça fait aussi vraiment du bien de décentrer de cet aspect très technico-technique, très scientifique, sciences dures, pour revenir à une problématique beaucoup plus large, beaucoup plus sociétale, puisque comme vous l'avez dit, il s'agit vraiment du nucléaire et de son monde, c'est avant tout une question de société. Donc je voulais juste vous remercier pour cette ouverture et pour cette double ouverture.
Alors nous aurons une réponse très sévère. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Michel.
Oui. Michel Larousse, Global Chance. Je voudrais poser une question à vous toutes et toutes qui êtes politiques, conseillères, journalistes. Ah,
ici.
Oui, peut-être que M. Carton peut élargir. Il y a une question qui pour moi est fondamentale, c'est la faute politique. C'est-à-dire que la fragilité du système français, qui est tout à fait originale, comme vous l'avez parfaitement souligné, quand on se rappelle qu'il y a un an, il y avait un système éco-watt qu'il fallait voir si c'était vert, si c'était rouge, et on risquait de se retrouver pour la première fois depuis toujours dans la situation d'un pays en voie de développement, comme certains d'entre vous ont pu le connaître, dans certains pays, où ah, mais là, il faut tout arrêter parce que ça ne marche plus. Et donc, cette question de la fragilité du système électrique et donc notamment nucléaire, comment se fait-il que ceux qui gouvernent et qui l'ont prévoir, comment se fait-il qu'elle n'est pas prise en compte et qu'au contraire, tous les œufs soient mis dans le même panier et comment réagissent, on l'a encore vu ce mardi à l'Assemblée nationale, par exemple, cette question n'est jamais imaginée. C'est-à-dire que la fuite en avant que vous avez évoquée est devenue un tel paradigme qu'on ne pense pas, alors que même on a une connaissance de ce qui s'est passé il y a un an, et comment l'emballement et l'aveuglement fait politique, bien sûr des politiques, mais aussi du public qui suit tout ça, sociologiquement et psychologiquement, comment vous expliquez ça?
C'est pas compliqué. Bon, juste un exemple qui n'a rien à voir avec le nucléaire. Mais vous savez, il y a eu ce fameux accident à Toulouse, j'étais encore avec Jospin, et il y a eu cette explosion à Toulouse,
l'industrie
chimique. Voilà. Eh bien, je reçois le pauvre patron enfin, de cette boîte qui, évidemment, est dans un secteur difficile, et il me dit, vous savez, ça ne peut pas arriver. Et je lui dis, mais c'est arrivé. Il me dit, mais ça ne peut pas arriver. il l'a lu trois fois, ça ne peut pas arriver.
Non, mais il y a une autre réponse qui est que tant qu'il n'y aura pas une sorte de consensus minimal sur le fait qu'il faut changer de mode de vie, c'est pour ça que j'ai recité la conférence de 2002 où ils disent « c'est nos modes de vie qui posent problème ». Donc tant qu'on n'a pas cette volonté de changer de mode de vie, et je crois que pour l'instant il y a très peu de gens qui l'ont, quelles que soient les classes d'âge, on ne peut pas réfléchir à l'énergie puisqu'on a besoin d'énergie. Donc, quelle qu'elle soit, le pétrole, effectivement, on n'a jamais autant investi dans le pétrole, etc. Le nucléaire, et je crois qu'il y a un mauvais argument qui consiste à dire de toute façon, le nucléaire français tel qu'il est prévu arrivera trop tard puisqu'il arrivera dans 15 ans. Oui, mais les gens se préoccupent de ce qui se passera dans 15 ans. Donc si on leur vend le fait que dans 15 ans, tout ira bien parce qu'on aura 14 EPR, ils sont contents. Donc voilà. Donc tant qu'on ne veut pas changer de mode de vie et de manière radicale...
Est-ce
Il y a un complément de réponse très rapide.
Il y a Charlotte.
Ouais.
Charlotte.
Je pense qu'il y a une question qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est à quel point il y a aussi une affaire de croyance, de foi, de religieux, de dogme, de croyance dans le nucléaire dans, comme quelque chose de providentiel qui, de toute façon, va nous sauver et tout. Et il y a vraiment quelque chose qui se noue à ce niveau-là et qu'à mon avis, il faut aussi questionner sur ce niveau-là.
Je voudrais juste vous raconter une anecdote. J'avais appelé Bernard. Il y a les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et à ce moment-là, on protège nos installations nucléaires. Et notamment, on met des batteries autour des différentes installations. Et je reçois à ce moment-là, je sais pas si tu t'en souviens, Bernard, les gens des militaires plus l'industrie, ils me disent, c'est formidable, avec les batteries, on va empêcher Greenpeace d'atterrir sur les... Donc il y a un truc, il peut rien se passer avec le nucléaire, parce que c'est le seul truc emmerdant, c'est quand même Greenpeace. Et c'est, dans les gouvernements, le problème du risque, la GADEC a fait un super bouquin pour montrer comment on ne veut pas dire ce qui se passe. Et tu te souviens quand il y a eu ce problème de la tempête, là, c'était je ne sais plus quand, il y a eu un moment vraiment dangereux où il y avait une centrale qui ne pouvait pas être refroidie. Le temps que ça remonte à Matignon, il y en a eu pour 2 jours. Pendant 2 jours, ça ne peut pas arriver. Mais c'est ce problème, ça ne peut pas arriver, est un syndrome que la GADEC a très bien décrit dans son bouquin.
Un et deux. Ma question, elle est un peu générale pour les deux tables rondes, parce que finalement, on a parlé une forme d'essoufflement du mouvement anti-nucléaire. Et en fait, je me demandais si, justement, si vous trouvez un renouveau, devait forcément passer par un renouvellement des structures telles qu'elles existent, ou alors de repenser peut-être des alliances aussi, à la fois entre la recherche, notamment sciences sociales, mais aussi en sciences dures, et le militantisme, mais aussi de s'ancrer dans les institutions. Parce que j'ai l'impression parfois qu'il peut y avoir une forme de rejet des institutions, alors qu'il y a des institutions, il y a des relais en interne qui parfois permettent en tout cas d'avoir une action qui est particulièrement importante. Et aussi parce qu'il y a certaines institutions qui peuvent parfois être dans des moments où elles sont elles-mêmes en danger et se nourrir aussi du mouvement social pour continuer à avoir des
solutions. C'est Céline.
Ah oui, c'est vrai que les institutions s'ébranlent. En fait, on a vu aussi l'exemple avec la CNDP, l'ancienne présidente qui finalement a pris la parole très fortement en fait pour dénoncer l'absence entière et historique de démocratie ou de débat démocratique plutôt en fait dans le domaine nucléaire. Alors qu'on sait bien, enfin on l'a évoqué, que au moins depuis 2002, on était entré dans ce cadre de nucléaire démocratique ou de débat démocratique. Donc c'est vrai que, il est certain que ces voix dissidentes, même devenues dénonciatrices, sont à se saisir en fait. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut que faire alliance justement que de les entendre et de contribuer à leur multiplication, je dirais. Après, il faut aussi quand même se rendre compte d'une chose, c'est que les institutions au sens plus large sont, il me semble en tout cas hein, en tant qu'analyste, de plus en plus dans l'autodéfense, dans la défense en fait, aussi du nucléaire, enfin si on suit les derniers développements, appuyés par des discours. Encore une fois, je vais revenir à mes écolos pro-nucléaires ou ces associations-là qui sont vraiment dans la volonté de récupération absolue de la société civile critique vis-à-vis de ce capitalisme nucléaire, de cette technocratie. C'est qu'en fait, on est dans un recul de discours hyper réactionnaire. On a parlé de Jankovici. Il n'est pas que malin, il me semble. Il dit des choses vraiment qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire il est complètement dans la négationnisme de, par exemple, des victimes d'accidents nucléaires. Ah, c'est, oui, je veux dire, c'est, il suffit de regarder les discours. C'est assez effrayant. On a vu aussi très récemment avec la guerre en Ukraine combien, en fait, il daignait en fait de dire que si ça pète au niveau Zaporijia, ça ne concernera pas, parce que ça va être local. Ça, je pense que ces discours-là, même on n'avait pas entendu de la bouche d'un pèlerin qui ensuite était si mis en cause, enfin à juste titre d'ailleurs, mais voilà, là on est vraiment dans un peu la version de pèlerin multipliée, je dirais par 10 en fait, et on ne s'en rend pas compte. En même temps, c'est la même personne qui se fait passer pour pour un grand écolo et surtout le grand conseiller et consultant et enseignant en fait des ingénieurs, des jeunes ingénieurs justement et de jeunes politiciens en devenir en fait dans des écoles polytechniques à Centrale, enfin partout. Donc il faut occuper ces lieux-là effectivement aussi pour empêcher ces discours-là. Et peut-être je vais juste dire un dernier qui m'a choquée, c'est ça venait de la part des voix nucléaires, cette association pro-nucléaire et dite écolo, mais enfin moi c'est les anciens des actuels de l'industrie nucléaire. Et très récemment ils ont commencé à diffuser le discours selon lequel être anti-nucléaire c'était être climato-sceptique. Donc je pense que on est vraiment dans une aggravation, un recul, une dégradation absolue des manières de se voir imposer des cadrages dont on n'imaginait pas qu'ils puissent être là en 21e siècle, alors que franchement ils étaient inadmissibles, il me semble en tout cas, dans les années 90 quand même. Et là-dessus, effectivement, on ne peut qu'être triste parce qu'il y a en plus donc ces présidents de la République là, qui font leur retour absolu à l'autoritarisme. En faisant fi de tout ce qui était problématique dans les tentatives de démocratisation. Donc plus personne ne parle de rien du tout de tout ça. Donc je vais peut-être conclure comme ça.